Il est 22h08 à Paris, 7h08 à Nouméa. Le jour se lève sur cet archipel du Pacifique qui est plongé dans la crise depuis une semaine. On va tout de suite se rendre sur place. Bonjour Cyril, vous habitez Nouméa. Je parle sous votre contrôle. Vous avez passé cette nouvelle nuit sur un barrage, les fameux barrages qui sont dressés par une partie de la population pour se protéger des émeutiers. Comment elle s'est passée cette nuit? Est-ce qu'elle a été plus calme que les précédentes?
Pour notre part, en fait, ça a été calme. On a passé, on a la première nuit qui était un peu compliquée. Les autres nuits, on a réussi à négocier avec les jeunes du quartier. Donc, parce qu'ils voulaient pas ça, donc on a pas eu de soucis. Bon, il y a des agressions, on se fait insulter un petit peu régulièrement.
Quand vous parlez des jeunes du quartier, pardon, Cyril, vous parlez de d'émeutiers?
D'émeutiers, oui, tout à fait.
Donc, ça veut dire que le dialogue se fait avec les émeutiers?
Dans notre quartier, on a réussi, parce que c'est des gens qu'on côtoie, qu'on croise, nos enfants sont à l'école avec eux. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. En fait, ils ont été alimentés, ils sont alimentés, en fait, par d'autres groupes qui viennent de l'extérieur, qui leur ont demandé de mettre le bazar. Il y en a qui ont joué le jeu avec eux, qui ont mis le bazar, et puis il y en a d'autres qui ont réussi à les raisonner. Mais c'est vraiment, je parle vraiment sur notre quartier, parce qu'il y a eu du dialogue, on l'a mis en place tout de suite. Ils ont bien compris qu'on n'était pas là pour les agresser. C'était plutôt l'inverse, donc on avait fait des grosses barricades, parce que quand on voulait pas recevoir des cailloux, il n'y a jamais eu d'agression verbale avec eux, donc de mon côté, ça se passe relativement bien.
Et ces jeunes dont vous parlez, les jeunes en tout cas, vous parlez de la situation dans votre quartier, c'est quoi? Vous dites en fait, ils sont manipulés, c'est des petits jeunes qui ne sont pas forcément politisés?
Ben, on a bien vu qu'ils sont manipulés parce qu'en fait, ça a été bien organisé à la base. Parce qu'en fait, ils ont commencé par piller des magasins pour pouvoir avoir de l'alimentation. Après, ils sont allés dans les quartiers, ils ont distribué des cocktails Molotov, des cailloux, ils en avaient. Donc, ils ont distribué des drapeaux. C'est pas les jeunes dans les quartiers qui ont dépensé de l'argent pour prendre des drapeaux. Nous, on a discuté avec eux pour savoir un petit peu pourquoi ils étaient là et pourquoi on leur a parlé. On leur a demandé la tribu du CCAT, mais on leur a demandé de mettre le bazar. Ce qui a eu plusieurs grades, il y a eu le grade 1, il y a eu le grade 2, après ils nous ont dit qu'on était au grade 2,5. En fait, c'était de la montée en crescendo, en fait, dans la violence. Et quand ils disent, on nous a demandé d'être là pour lutter. Mais ils savent pas pourquoi ils veulent lutter. Ils luttent, mais ils savent pas du tout. Quand on discute avec eux, non, ils sont là. On les alcoolise déjà dans un premier temps. Et puis après, on leur dit d'aller au crescendo, essayer de nous balancer des cailloux, nous insulter, essayer de passer de force parce que, nous, on s'est protégés parce que dans les insultes, en fait, on nous dit on va venir vous brûler vos maisons, on va commencer par brûler vos sociétés. C'est ce qui s'est passé, hein, ils l'ont très bien fait. Moi, mes deux sociétés ont brûlé. C'est terrible à voir parce qu'on voit la fumée, on voit les flammes, et puis après, on ne voit plus rien.
Et est-ce que vous aussi, parce qu'effectivement, on découvre nous aussi les images et les dégâts qui sont considérables, hein. En ce moment, en Nouvelle-Calédonie, 200 millions d'euros de dégâts chiffrés selon un dernier bilan. Est-ce que vous diriez, parce que vous avez pu parler avec ces jeunes, vous dites voilà, ils sont instrumentalisés, on leur donne des cocktails Molotov, on leur dit d'aller incendier des bâtiments, de nous viser. Est-ce que vous reprenez ce terme qu'on a entendu chez certains de racisme anti-blanc?
Pour une partie, hein, c'est vraiment pas pour... c'est du racisme anti-blanc, oui, parce qu'ils veulent tuer du blanc, hein, c'est ce qu'on a entendu. Hein, ils veulent tuer le blanc, ils veulent brûler les maisons des blancs. Mais ça, c'est parce qu'on leur a mis ça dans la tête, ça fait des années qu'on leur dit ça. Et là, c'est dernièrement, il y a eu le vote pour le dégel du corps électoral. Mais là, c'était un prétexte, on savait très bien. Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on habite ici. On connaît tout le monde, on voit au niveau des employés. C'est vraiment, depuis des années, on leur dit attention, on va se faire envahir par les blancs, ce qui n'est pas du tout le cas. De toute façon, on n'est pas là pour envahir personne. Nos entreprises, on embauche pratiquement que des Mélanésiens, et ça se passe très très bien.
Mais après, vous me dites si je me trompe, Cyril, radical, mais je ne ressens pas de colère dans votre discours vis-à-vis de ces jeunes.
Parce que je suis abasourdi, et j'en veux aux personnes qui sont à la tête de toutes ces organisations. Là, les gamins, on les manipule. Ça pourrait être nos enfants qui auraient pu être manipulés, ça aurait pu être des enfants d'autres. C'est vraiment... pour moi, c'est clair, c'est vraiment... c'est de la manipulation. On les a mis, on les a grandis, on leur a expliqué que voilà, il fallait se battre pour un combat. Il n'y a pas de combat, en fait. Hein. Je comprends pas. Nous, on est là, on vit au quotidien, mec. Nous, on travaille avec eux dans nos entreprises. Moi, j'ai des chefs d'équipe qui sont mélanésiens. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est vrai, quand ils rentrent chez eux, quand ils sont avec les copains, avec la bande, eh ben, ça boit beaucoup d'alcool, parce que c'est très alcoolisé, hein, quand on voit le taux
d'alcoolisme, vous voulez dire?
D'alcoolisme, et puis les femmes battues, quand on voit dès qu'il y a des mariages, il y a toujours, ça se bat toujours à sabre d'abattis, tout ça. Donc voilà, ils vivent dans cette violence constamment. Chez eux, hein, on a bien vu. Ouais. Hein, ils veulent nous mettre dehors, mais on a bien vu sur Marais, ils ont mis 170 personnes dehors du jour au lendemain. Les ont mis dehors. Ils ont été renvoyés en province sud. Donc, c'est nous qui les avons récupérés, hein, ces gens-là. Il a fallu les reloger, les nourrir. C'est pas les gens des îles, des autres îles qui les ont récupérés. Mmh. Donc, ils ont des systèmes vraiment radicaux.
Merci, merci Cyril pour votre témoignage. Je peux que vous souhaiter bon courage ce soir, parce que je sais que la situation est extrêmement éprouvante et on entend de nombreux témoignages depuis le début de la semaine et c'est extrêmement, extrêmement éprouvant, extrêmement fatigant pour la population sur place. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce témoignage. C'est très intéressant ce que dit Cyril sur, il y a une forme de compréhension. En fait, de la part de Cyril, où il nous explique, ben voilà, ces jeunes, c'est des gamins qui sont désœuvrés, c'est des gamins qui vivent dans la misère, c'est des gamins qui vivent dans la violence, qui sont paumés et en fait qui sont manipulés. Mais ce qu'a l'air de dire Cyril, c'est que finalement, on essaie d'opposer deux camps, les Kanaks et les Caldoches, mais finalement, en tout cas, de ce qu'il a l'air de dire lui, c'est que la cohabitation n'est pas si électrique que ça.
Alors. Je suis pas une spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, mais il s'avère que j'ai beaucoup échangé depuis 3 mois, puisque j'ai fait une émission là-dessus il y a 2 mois, et il était déjà question en fait de cette situation qui était en train de s'électrifier. Il faut savoir que 71% des Kanaks vivent sous le seuil de pauvreté. On est face à des jeunes dont 26% en fait sont au chômage. On est largement au-dessus, près de 16 points au-dessus en fait du taux de chômage. Par ailleurs, qui est à 10% là-bas, enfin presque 11, et nous ici on est à 7. Enfin, pour qu'on se fasse un petit peu une idée de la situation sociale, vous ajoutez à ça la crise du nickel dont on n'a pas encore parlé. La crise du nickel, c'est quoi? C'est un quart des emplois privés sur l'île. Une des usines est aujourd'hui fermée. L'État français n'a pas voulu véritablement aller mettre au pot pour sauver en fait ce qui est une industrie extrêmement centrale en termes de souveraineté. Là-dedans, on savait en fait que ça allait finir par exploser. Pourquoi ?
Vous savez qu'il y avait un terreau social.
Il y a un terreau social. Évidemment, il y a un terreau social. Deuxièmement, on est quand même sur une colonie de peuplement. C'est un des 17 territoires à décoloniser selon l'ONU. On a effectivement des Français blancs qui se sont installés là-bas, certains depuis des générations. La France, souvenez-vous, allait y envoyer des gens au bagne. C'est quand même aussi cette situation-là. En fait, est le fruit d'un processus historique qui dure depuis 150 ans. Donc, de fait, en 88, après les accords de Matignon, puis les accords de Nouméa en 98, on a réussi un peu à stabiliser la situation. On voit bien que les 3 référendums, dont le dernier, mais on y reviendra, qui a été géré de manière vraiment incroyablement, délétère, quoi.
D'ailleurs, a été boycotté par les indépendantistes.
Exactement, mais on y reviendra, a conduit à cette situation. Donc, on est là en train de récolter les fruits d'un processus de délitement qui dure depuis des années.
Il y a tout un poids historique, effectivement, derrière ça. D'un point de vue sécuritaire, Dominique Rizet, il y a des renforts qui ont été envoyés sur place. Il y a 1700 effectifs de sécurité qui sont arrivés en renfort. 1000 autres qui vont être envoyés, donc ça va faire 2700. Les 1000 autres, ils vont arriver quand? Ils vont pouvoir se déployer, être opérationnels à quel moment?
Il faut une trentaine d'heures pour arriver là-bas. Une partie, je crois que 3 avions sont partis d'Istres hier. On avait Clémence Dibou de BFM TV qui était sur place aujourd'hui. Donc, un autre avion est parti tout à l'heure. Il faut acheminer tout ce personnel. Quand ces gens vont arriver, ils vont être fatigués parce que c'est 24 heures de vol avec 2 escales pour ces avions, ces gros avions militaires. Hein. Ils ne fonctionnent pas forcément comme un avion de ligne. Donc,
et plus 10 heures de décalage horaire.
Plus 10 heures de décalage horaire, plus la fatigue. On ne peut pas attendre de ces gens-là qui vont descendre de l'avion avec leurs sacs, leurs armes, qu'ils aillent courir dans la banlieue de Nouméa et à Nouméa pour régler les problèmes. Et puis ensuite, il faut aussi du matériel. C'est-à-dire que quand on va faire du maintien de l'ordre, vous voyez bien ce qui s'est passé dans les manifs en France, gilets jaunes, manifs retraite, on a des canons lanceurs d'eau, ils ont des canons lanceurs d'eau, ils ont des VBRG, des véhicules blindés à roues de la gendarmerie. Ça pèse 20 tonnes. On peut pas mettre ça dans un avion. L'avion décolle pas. Donc, il va falloir les acheminer autrement. Si la situation perdure, on peut espérer, ça fait 2 nuits que ça va mieux, que les choses vont s'apaiser. Le témoignage de Cyril est intéressant parce que, en fait, il est apaisé, mais il a aussi besoin de tenir ce discours parce qu'il est sur place. Il est sur cette île. Tout à l'heure, on avait un témoignage de quelqu'un, d'un monsieur qui s'appelle Stéphane, qui est un ancien commando marine. Il était bon titré comme ça, consultant police-justice. Lui, c'était ancien commando marine. D'accord? Il était là-bas et il disait, on a peur. Moi, j'ai une famille. Il n'a pas envie de tirer sur les gens, mais si quelqu'un rentre dans ma maison en me disant « Vous sortez, on va brûler votre maison », eh bien, je ne vais pas me laisser faire. Donc, vous voyez, c'est, pour l'instant, les forces de l'ordre ne sont pas arrivées. Et lui disait aussi, sous-entendu, ils sont occupés, les policiers, les gendarmes sur place sont occupés.
Ils sont occupés à protéger.
On peut toujours les appeler si on a des problèmes, c'est complexe. Mmh. Et ce que disait Nora est intéressant aussi, parce que effectivement, ces gamins insupportables qui vont brûler, casser, si vous les prenez séparément et si vous, vous leur parlez dans 15 jours, quand on ne sera plus là-dedans, ils auront des choses intéressantes à dire.
Cyril, ce qu'il disait, dans voilà, on les prend en tête à tête, on arrive à parler avec eux, mais voilà. Quand il y a un effet.
Dans l'instant, ils sont insupportables, on a envie de leur botter les fesses. Mais au fond, il y a sûrement, évidemment, ce n'est pas au fond, il y a quelque chose à en tirer, mais en procédant autrement.